Bienvenue, bonsoir. Bienvenue à l'émission Livre au Café des Psaumes, ici en Café Jalkov. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Michael Prazan. Michael Prazan est documentariste et écrivain. Il a fait des études de lettres modernes et de langues françaises à la Sorbonne et publié plusieurs ouvrages sur les mouvements radicaux des années 60 et leurs idéologies meurtrières. Il a écrit sur Pierre Goldman, sur Roger Garaudy, sur les commandos de la mort. Mais ce soir, nous recevons Michael Prazan pour son livre La Passeuse, ouvrage paru aux éditions Grasset, qui fait suite ou qui accompagne, il va nous le dire, à son documentaire La Passeuse des Aubrais, qui a été salué par la profession. Donc je vous propose donc ce soir, Michael Prazan, de visiter votre ouvrage comme une maison, en ouvrant ses portes et ses fenêtres, la relation d'un père et d'un fils, l'un qui a survécu à la guerre, l'autre qui est né en 1970, la mémoire et la transmission, et la fragilité du témoignage. Donc, avant d'ouvrir ce livre, je voudrais tout simplement vous demander, Michael Prazan, quel est le rapport entre ce récit et le documentaire que vous nous avez offert, La Passeuse des Aubrais, sur Arte.
Il y a une différence d'abord d'objet. Écrire un livre, ce n'est pas la même chose que réaliser un documentaire, ce n'est pas du tout la même écriture. Dans un film, on est tenu par un format, qui est très souvent d'ailleurs celui de la diffusion, même si initialement je ne voulais pas faire le film pour une chaîne de télé, mais les choses se sont passées, et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une longue histoire, de manière à ce qu'au final, la chaîne Arte le prenne. Mais de toute façon, le format que j'avais décidé, c'était un 80 minutes, ce qu'il a été. Et je crois que c'était le format qui convenait, en tout cas, à ce récit-là et à ce film-là. Il était important pour moi de commencer par le film, parce que c'est déjà quelque... Comment dire, c'est une écriture qui est la mienne, non pas que je néglige l'écriture littéraire, bien au contraire, mais j'ai besoin, je crois, des deux. Et pour ce qui est du film, il y avait ces deux témoignages filmés qui charpentent et structurent le récit, qui était d'une part celui de mon père, qu'il a donné à Lina en 2006, et d'autre part celui de Madame Léopold, de Thérèse Léopold, la passeuse qui donne son titre à la fois au film et au livre. Et à partir du moment où le film était fait, j'avais déjà pris un engagement auprès d'un éditeur, sachant que la forme n'est pas fondamentalement différente. Les deux témoignages subsistent également dans le livre, mais le livre me permettait d'entrer dans bien plus de détails, puisque ça a été le fruit de nombreuses et longues recherches historiques par ailleurs. Ça me donnait la possibilité déjà... d'une autre écriture, une écriture littéraire, et puis aussi d'entrer davantage dans la psychologie des personnes, presque des personnages dont mon père est la passeuse, mais pas seulement. Il y a aussi un autre personnage qui est fondamental, qui est celui de Pierre Lussac, on y reviendra certainement. Et voilà, et puis aussi de nourrir le livre de choses que je ne pouvais pas faire dans le film, c'est-à-dire de reconstitution, de reconstruction, de passages que j'ignorais, sur lesquels il n'y avait pas nécessairement de témoignages, mais qui, par recoupement et grâce aussi à des œuvres historiques ou des documents, des passages comme ça que j'ai pu reconstituer, notamment par exemple les quelques jours que ma grand-mère a pu passer au camp de Drancy avant d'être envoyée à Auschwitz. Voilà, donc pour moi, les deux formes sont complémentaires. Elles s'adressent à des publics certainement un peu différents. On est aujourd'hui dans une société de l'image et il y a un certain nombre de messages qu'on peut davantage faire passer par l'image. On touche plus de publics, ça dépend évidemment, mais très souvent que par un livre, même si pour autant le livre était pour moi tout aussi nécessaire.
Bien. Et alors, ce récit... est-ce qu'on peut le qualifier finalement d'intrigue, puisque finalement on a deux parties. Votre père Bernard, qui semble considérer, alors qu'à l'époque il a 8 ans, si je ne me trompe.
Il a 6-7 ans.
Ah oui, alors non, il a 6-7 ans. Et donc, il a un petit peu l'impression que la passeuse qui lui a fait franchir la ligne de démarcation aurait eu un moment d'hésitation. Un moment d'hésitation sur lequel l'enfant, que l'enfant a parfaitement saisi. Et finalement, est-ce qu'il a vu juste ? Est-ce qu'il a intuitivement compris ce qui se passait ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous résumer ce moment de doute qui va être extrêmement important pour le reste de sa vie ?
Je vais le résumer, mais je vais aussi le contextualiser. En fait, tout commence en 2006, lorsque Lina engage une campagne de récolte de témoignages un peu à l'image de ce qu'avait fait Steven Spielberg. À l'échelle du monde, mais là c'est à l'échelle française. Et la dernière partie de cette campagne concerne les enfants cachés, ceux qui ont perdu leurs parents et qui ont réussi à survivre à l'occupation et à la guerre et au nazisme en étant cachés très souvent dans les campagnes de France. C'était le cas de mon père. Et lui n'a jamais souhaité témoigner. C'est pas quelqu'un qui aimait regarder le passé, encore moins celui-là. Mais voilà, je passe encore une fois les détails. Ça a été compliqué de le traîner à l'INA à Bry-sur-Marne, mais j'ai réussi à le faire. Et là, effectivement, il va donner un certain nombre, il va livrer un certain nombre de souvenirs d'enfance sur ses parents, sur la période d'avant la déportation, et puis sur ce moment, effectivement, ce moment déterminant qui a fait basculer sa vie, mais pas seulement. Il était aussi accompagné de sa sœur, lui avait 6 ans, sa sœur en avait 10, et pour des raisons que je ne m'explique pas et dont lui-même ne gardait pas nécessairement le souvenir, il est confié à une femme qui est censée, une jeune femme, qui est censé les faire passer en zone libre. Et effectivement, arrivé sur le quai d'une gare qu'il croit être la gare d'Orléans, en réalité c'est la gare des Aubrais, donc vraiment tout près de là, un jet de pierre hein, de la gare d'Orléans, il comprend sur le quai de la gare qu'en réalité, elle va les livrer à la Gestapo, et puis il voit passer dans son regard ce revirement. Et elle ne le fait pas. Et elle va prendre les enfants par la main et 100 kilomètres les séparent de la ligne de démarcation. Et pendant une journée, un peu plus, où il va leur arriver d'ailleurs un certain nombre d'aventures et de péripéties, comme par exemple être arrêté par les Allemands justement sur la ligne de démarcation le soir venu. Ils vont d'ailleurs passer la nuit dans une caserne de la Wehrmacht. Mais il en gardait évidemment des souvenirs lacunaires et flous. Finalement, elle va les confier à un certain nombre de personnes qui vont s'occuper, alors juifs, pas juifs, résistants, rien n'est si clair de ce point de vue-là, qui va les cacher pendant toute la durée de la guerre. Mon père va être déplacé d'une campagne à l'autre, ça commence dans les Pyrénées-Orientales, et puis il va finir dans le Limousin, chez un vieux couple de cultivateurs. Il ne sera pas d'ailleurs nécessairement toujours bien traité dans ses familles, hein. Il sera forcé de travailler, de biner, parfois on ne lui donnera pas à manger. Donc le panorama n'est pas aussi clair et idyllique qu'un certain nombre de récits qu'on a pu nous faire ensuite sur cette période-là et sur les gens qui ont permis à ces petits-enfants juifs de survivre. Et cette version-là, c'est celle qu'il va donner à Lina, et il n'en a jamais démordu. Il était convaincu que cette femme était en fait de mèche avec la Gestapo, parce que, disait-il, elle était venue accompagnée d'un monsieur, et ce monsieur, dont il semblait ignorer le nom, cela ne faisait aucun doute, lui était un faux passeur qui livrait les juifs qu'il était censé faire passer en zone libre contre des sommes d'argent très importantes. Ce monsieur, en fait, livrait ses familles et ses gens à la Gestapo, et la suite, c'était la mort dans les camps d'extermination, et notamment Auschwitz principalement. Et ça a été le cas de la cousine germaine de mon père. Donc c'est fort de ce lien-là, fort de la connaissance qu'il avait de ce qui était arrivé à sa cousine, qui avant de mourir a écrit des lettres pour raconter ce qui s'était produit, qu'il était convaincu de cette duplicité de cette jeune femme. Mon père meurt il y a quelques années, il y a 5-6 ans, en 2011, et le hasard fait que je retrouve non seulement le nom et l'identité de cette femme, mais également son adresse, elle est encore vivante, et je décide d'aller la voir pour lui demander sa version de l'histoire. Bien. Et c'est le point de départ.
Oui, et alors c'est le point de départ, et c'est le point de départ de votre enquête, parce que finalement, il y avait quand même pas mal de silence dans le récit de votre père. Il était pas.
Il y avait des silences, il y avait des choses qu'il ignorait, et évidemment, je vais découvrir dans le récit que Madame Léopold me livre un certain nombre de choses dont je ne soupçonnais pas même l'existence et d'autres dont je ne crois pas un mot. Et va s'en suivre après notre rencontre et elle décède très peu de temps, quelques semaines, quelques mois après que je l'ai rencontrée. Et à ce moment-là, je vais chercher pendant 3-4 ans la vérité ou essayer de trouver dans ce qu'elle m'a dit ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors, je n'ai pas toujours réussi, mais quand même.
Oui, vous avez réussi quand même pas mal de choses. Et vous avez mené une recherche croisant finalement les témoignages, les documents, des sources miraculeuses qui vous mettent en contact avec la passeuse. Ce serait peut-être intéressant que vous reveniez sur toute cette masse de documents que vous avez brassés dans cette seconde partie de l'ouvrage qui se lit vraiment comme une intrigue, quoi.
Oui,
c'est
un mystère que j'essaie d'éclaircir. Donc il y a une enquête presque policière où je dois d'ailleurs aussi retourner sur les lieux dont elle me parle, retrouver cette fameuse commandante tour où ils auraient passé la nuit après s'être fait arrêter sur la ligne de démarcation. Elle prétend avoir été ensuite dénoncée par le monsieur que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire probablement l'un des pires collaborateurs de l'occupation, dont je découvre le nom, qui s'appelle Pierre Lussac. Donc je vais aussi faire des recherches pour essayer d'en apprendre sur le bonhomme, qui il était, qu'est-ce qu'il motivait, quels furent ses crimes. Et là, je découvre une somme de crimes, mais invraisemblables. Il y a évidemment cette première vocation durant les 2-3 premières années de la guerre, où il est faux passeur, où il s'enrichit sur le dos des victimes qu'il va livrer à la Gestapo. Et puis ensuite, il va être salarié par la Gestapo d'Orléans. Et là, il n'y aura plus vraiment de chasse aux Juifs, parce qu'il n'y a plus vraiment de Juifs. Mais ça va être une chasse aux résistants. Et il va lui-même procéder à l'arrestation de cette soixantaine de lycéens résistants. Hein, c'est des gamins qui avaient entre 17 et 21 ans, qui cherchaient à rejoindre le Limousin pour faire barrage à la Das Reich qui progressait vers le front de Normandie. Et il va se faire passer lui-même, Pierre Lussac, pour un faux résistant et faire un coup de filet où presque tous ces jeunes gens vont être fusillés sur le champ et lui-même va en assassiner plusieurs en tirant plusieurs balles sur eux de ses mains. Ceux qui ne seront pas tués seront amenés à la Gestapo d'Orléans, longuement torturés, puis finalement déportés. Certains reviendront, et Pierre Lussac fera partie de ceux qui sont jugés à la libération et qui seront fusillés in extremis avant que les premières lois d'amnistie n'entrent en vigueur et puis remettent en liberté tous les criminels de son acabit. Donc, beaucoup de recherches, et évidemment, il me fallait aussi authentifier ce que m'avait dit la passeuse, c'est-à-dire sa déportation à Auschwitz-Birkenau, et ensuite Ravensbrück et Mauthausen. Et tout ça, j'ai pu, dans des recherches, à la fois dans les rapports de police d'après la guerre, mais aussi, évidemment, au musée d'Auschwitz, et puis aussi au Cercil, et puis dans les camps du Loiret, parce qu'il me fallait aussi reconstituer le séjour de mon grand-père, Abraham, dans le camp de Pithiviers, avant sa déportation. C'était une recherche tous azimuts où j'ai essayé de reconstituer les pièces du puzzle et puis ensuite de constituer ce puzzle et voir un peu l'image qui s'en dégageait. Et parce que la passeuse n'est pas non plus la juste parmi les nations telle qu'on peut se l'imaginer, c'est quelqu'un qui entre en dialogue avec moi en tenant tout de suite des propos que l'on pourrait qualifier d'antisémites. Je comprends bien que ce sont des préjugés liés à l'époque. C'est une très vieille personne que je rencontre et je vois des zones d'opacité, d'obscurité dans son récit. Et moi, je reste arrimé à la version livrée par mon père. Mon père était quelqu'un qui était incapable de mentir, qui était incapable de travestir la réalité et ses sentiments. Donc, je n'avais aucune raison d'en douter, même si cela reposait chez lui, me semblait-il, en tout cas, principalement sur une intuition, sur un regard. Et c'est ça aussi la force, je crois, de ce récit. C'est comment tout bascule dans la lecture qu'on peut faire d'un seul regard. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il ne s'était pas complètement trompé.
Bien, alors on va revenir peut-être au début. Qui est cette passeuse? Puisque cette passeuse, c'est une petite serveuse rencontre un couple qui vit très bien sur un grand train de vie. Ce couple, c'est effectivement le couple de Pierre Lussac et son épouse. Et c'est un petit peu comme ça qu'ils font affaire et c'est comme ça qu'ils vont prendre contact avec la famille de votre père. Revenons sur ce moment un petit peu crucial.
Oui, on est en juillet 42. C'est une femme qui a 22 ans, qui travaille comme serveuse dans une guinguette de la Marne chez Convert. Et me dit-elle, elle rencontre à cette occasion-là, effectivement, ce couple, Pierre Lussac et sa femme Yvonne Velgue, qui ont un nouveau-né du même âge qu'elle. Et ils vont sympathiser. Effectivement, ce couple mène grand train, bijoux pour sa femme, vêtements de prix. Et tout ça, sans doute, l'a fait un peu rêver. Et elle est d'autant plus curieuse, me dit-elle, de ce couple que lui ne semble pas travailler du tout. Et puis un jour, il, pour une raison que j'ignore, l'aurait mise dans la confidence et lui aurait proposé de devenir passeuse pour son compte à lui, omettant, me dit-elle, qu'en réalité, il n'y avait pas de point de chute et que tout ça, le seul point de chute, c'était la Gestapo. Toujours est-il qu'il va l'introduire auprès de la seule personne qui reste encore en vie de la période de mon père, qui est sa tante, qui a survécu et que j'ai bien connue. Et c'est elle qui va lui confier les enfants, et c'est elle qui très certainement lui avait confié aussi la cousine Régine, qui elle va être livrée par Pierre Lussac, c'était avant la rencontre avec Madame Léopold, à la Gestapo, et qui mourra ensuite en déportation. Donc voilà comment les choses se passent. Elle est introduite et ils y vont tous les trois chez la tante pour un premier contact, et puis Madame Léopold me dit, ou prétend, qu'elle aurait eu un doute sur les intentions réelles de Pierre Lussac et qu'elle serait revenue elle-même à l'improviste chercher les enfants à son insu.
Deux jours avant, me semble-t-il.
Quelques jours avant, les choses ne sont pas si claires dans cet épisode-là, en tout cas. Et elle finira donc, encore une fois, après bien des péripéties, à les mener à bon port, c'est-à-dire en zone libre, où ils resteront cachés durant toute la durée de la guerre. Et lorsqu'elle rentre à Paris, à ce moment-là, elle est, et ça c'est un fait, j'ai retrouvé les documents, dénoncée par Pierre Lussac, arrêtée par la Gestapo, torturée d'abord dans la Gestapo d'Orléans, elle y est acheminée depuis Paris, et ensuite elle sera déportée, et ça c'est une grande surprise pour moi aussi, dans le convoi du 24 janvier 1943 à Birkenau, qui est un cas unique dans l'histoire pour deux raisons. D'abord parce que c'est le seul convoi de politique non-juive qui arrive et qui va rester un an dans le camp d'extermination réservé aux Juifs. Et d'autre part, c'est le convoi des plus grandes résistantes communistes françaises, dans lequel il y a Charlotte Delbeau, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Daniel Casanova... et bien d'autres, et elle se retrouve parmi ces femmes d'un niveau social, culturel, intellectuel bien supérieur au sien. Elle va être certainement très esseulée parmi ce qu'on voit. Pour autant, c'est un caractère d'acier trempé, et elle va survivre. Elle va survivre à un an à Birkenau, et ensuite elle va survivre à Ravensbrück, Mauthausen, jusqu'à la libération.
Oui, mais alors cette personne est quand même très, très curieuse. Moi, ce qui m'a intéressé dans votre ouvrage, c'est son engagement. Vous avez beaucoup travaillé sur l'engagement de diverses personnes, y compris dans les réseaux terroristes. Qu'est-ce que vous diriez de son engagement à elle? L'a-t-elle fait pour de l'argent? A-t-elle eu à un moment donné un moment d'engagement en sauvant ses deux petits-enfants? Qu'est-ce que vous en dites?
C'est une des questions, une des dernières questions qui va me tarauder après avoir répondu à beaucoup de zones d'ombre au cours de mes recherches. Effectivement, quelle est sa motivation? Alors elle, évidemment, prétend ou me dira que c'est la volonté de sauver ses deux petits-enfants juifs. C'est très certainement possible, mais il me semble que c'est une reconstruction a posteriori des véritables motivations ou des véritables raisons qui l'auraient à ce moment-là animée. Et je vais essayer de comprendre véritablement la clé. Et la clé se trouve dans le récit qu'elle me livre d'une certaine manière, parce que par exemple, elle ne garde aucun souvenir, et à peine se souvenait-elle d'ailleurs de son prénom, de ma tante, Jeannette, la sœur de mon père, puisqu'elle accompagne ses deux enfants jusque en zone libre. En revanche, elle n'a oublié aucune seconde des quelques instants, une journée en réalité, qu'elle a passée avec mon père. Elle se souvient de tout ce qu'il lui a dit. Et je découvre, nous découvrons, parce que c'est aussi une recherche que j'ai effectuée en partenariat avec mon frère, qu'elle a gardé pendant 70 ans un petit bout de papier dans son sac, sur lequel était écrit le nom de mon père, qu'elle a cherché à joindre plusieurs fois, d'abord sur le Minitel, et au cours de sa vie, elle a cherché à le revoir. Mon père, lui, n'avait jamais voulu ou souhaité, visiblement, reprendre contact avec elle, ni la revoir. Et je comprends, en discutant avec son entourage, et principalement avec Madame Engelmann, qui était cette femme qui s'occupait des derniers instants de sa vie, en venant s'occuper d'elle 3 jours par semaine, et par laquelle je suis passé comme intermédiaire pour la joindre, et ensuite avec qui j'ai conservé un contact. Et elle m'a dit beaucoup de choses qui allaient dans ce sens-là. Elle m'a dit que Madame Léopold, qui a eu 3 enfants, un garçon et 2 filles, a toujours négligé ses filles au profit de son garçon, et que c'était une femme qui n'aimait pas les femmes. Voilà. Elle aimait les hommes et elle aimait les garçons, et je crois qu'en réalité, c'est une forme de coup de foudre pour le petit garçon très mignon qui était mon père à ce moment-là, qui a décidé au fond de leur destin à tous trois. Et donc c'est une bascule qui n'est pas liée à l'engagement politique en réalité, mais qui est liée à un moment précis d'une vie, d'une journée, de quelques secondes. Et c'est ça que je trouve fort intéressant dans cette histoire, c'est comment, en une fraction de seconde, au fond, des destins basculent. Voilà. Et les choses qui étaient écrites par avance ne vont pas se réaliser. Je crois que leur destin, je ne sais pas vraiment pour Madame Léopold, mais en tout cas pour les enfants, leur destin, c'était d'être livrés à la mort. Et c'est ce coup de foudre-là, ce regard-là, qui va changer les choses.
Bien. Et aussi, une question fondamentale, puisque finalement, avec vous, Michael Prasant, on a l'habitude d'aller au bout des choses. Donc, on va aller au bout des choses, c'est-à-dire cette qualification de juste parmi les nations. Juste, je rappelle que juste parmi les nations, c'est la définition de l'État d'Israël en 1953. Ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs, c'est ainsi qu'on peut qualifier une personne de juste. Est-ce que vous pensez que, là, je sais que ce n'est pas une opinion partagée dans la famille, si j'ai bien compris, avec votre frère?
Non,
vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
C'est plutôt moi qui renaclais à l'idée de cette comment dire, qualification ou de cette compensation, puisqu'aujourd'hui il s'agit en fait de c'est pour ses enfants à elle étant décédée. Mais au final, alors écoutez, il y a 2 choses. Il y a d'une part le fait que moi j'ai toujours eu comment dire une forme de réticence ou non pas un doute, mais j'ai toujours pensé que les Juifs, les survivants, nous, et c'est bien compréhensible, nous avions eu cette volonté de c'est la phrase du Talmud, hein, qui sauve un homme, sauve le monde, enfin, qu'on avait eu vraiment un désir de reconnaître ces gens, bien entendu, qui avaient sauver ces Juifs, sauver des enfants juifs, mais qu'on était passé un peu vite sur la réalité de ces sauvetages et sur les motivations de ces sauvetages. Je ne dis pas que le juste n'existe pas, bien au contraire, mais que parfois les choses sont plus nuancées, complexes, plus dans la zone grise que l'image qu'on en a donnée ensuite. Et au fond, elle est la caricature de ce doute, Madame Léopold. C'est une juste en zone grise, mais pour autant je crois que c'est une véritable juste, dans le sens où au bout d'un moment, quelles que soient les intentions, quelle que soit la psychologie des uns ou des autres, quelles que soient les motivations, eh bien il ne reste que les actes. Et de ce point de vue là je n'existerai pas sans elle, c'est ce que je dis à la fin du livre et du film aussi. De ce point de vue là elle a payé un prix très lourd au geste héroïque qu'elle a fait. Et donc, oui, malgré tous les errements, malgré un certain nombre de troubles et de zones d'ombre et de doutes, eh bien oui, elle est une juste dans le sens où elle a véritablement sauvé de la mort ses 2 enfants juifs, dont mon père, et que pour cette raison, elle a failli elle-même y perdre la vie.
Bien sûr, donc les actes comptent. Mais il y a un deuxième rebondissement dans votre ouvrage, c'est les fameux certificats. Les certificats dont vous ignoriez l'existence.
Les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'à la fin de ma rencontre d'une journée avec elle, chez elle, à Houlgate, qui était l'endroit où elle a fini sa vie et l'endroit où elle est née, elle me raconte que dans les années 60, au début des années 60, elle revoit mon père.
Oui. Ça, il vous l'a toujours...
C'est pas ça, c'est que je ne crois pas une seconde que ce soit vrai. Mon père n'a jamais mentionné cet épisode, il ne semblait absolument pas se souvenir de son nom, et d'ailleurs comment l'aurait-il pu à 6 ans, mais en tout cas il n'a jamais mentionné cet épisode. Donc elle me raconte ça, et elle me raconte la scène qui se déroule de leur retrouvaille. Ça ne correspond pas du tout à ce que je sais de mon père, ça ne correspond pas du tout, même s'il y a des éléments qui sont extrêmement troublants et qui sont pétris de vérité. Mais bref, je n'en crois rien. Pour autant, je vais tout de même faire des recherches. Et au bout d'un certain temps, peut-être un an ou deux, je suis la bonne piste. Et effectivement, je vais retrouver deux certificats signés de la main de mon père, signés également de la tante Gisèle, qui avait donc été cette ultime rescapée de la famille très nombreuse, paternelle, et qui avait confié les enfants et qui avait ensuite... recueilli après la guerre mon père, même si elle n'avait pas pu les éduquer, qu'ils avaient été ensuite contraints de grandir dans les maisons de l'UJRE et de l'OSÉ. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a ces deux certificats qui sont imparables. Je reconnais l'écriture, même si elle est tapée à la machine de mon père par un officier de police. Je reconnais leur signature à tous deux, leurs expressions. Je vois qu'il écrit noir sur blanc le nom de Madame Léopold. Je vois qu'il écrit noir sur blanc le nom de Pierre Lussac. Donc il connaissait ces noms, il savait exactement qui ils étaient. Et du coup, une autre interrogation est pourquoi ne nous en a-t-il jamais parlé? Et pourquoi n'a-t-il pas mentionné cet épisode et leurs retrouvailles qui ne se sont probablement pas passées exactement de la manière dont elle me le raconte? Mais ces retrouvailles ont eu lieu, ça ne fait aucun doute. Et pourquoi y a-t-il eu deux certificats, un, je crois, en 62 et l'autre en 65? Tout simplement parce qu'entre-temps, Madame Léopold avait changé de nom et que les autorités très sourcilleuses d'après-guerre qui attribuaient, c'était le sens de ces attestations, des pensions pour les politiques et les résistants, avaient besoin d'être certains que ces deux noms correspondaient à la même personne, c'est-à-dire Madame Léopold, puisqu'avant la guerre, elle s'appelle Lambois, et après la guerre, elle s'appelle Léopold, du fait d'un second mariage. Donc voilà ce qui s'est passé, et effectivement, les témoignages, de ce point de vue-là, ne laissent aucun doute possible.
Oui, et c'est là où vous avez effectivement trouvé des éléments supplémentaires à l'histoire finalement familiale, et vous avez percé ou mis à nu un certain nombre de silences ou de phrases ambiguës qu'on trouve dans la première partie de l'ouvrage quand il fait ses témoignages devant caméra.
Je réussis à peu près à tout recouper, à savoir également qui était l'architecte du sauvetage en amont, qui était en réalité un oncle de mon père. Toutes choses que j'ignorais, c'est vraiment au fil de ces recherches que tout à coup... Oui, 90-99% de la réalité va m'apparaître. Et pour autant, en ayant fini à la fois le film et le livre, même si j'ai réussi, je crois, et même de ce que je ne pouvais pas prouver en m'intéressant à la psychologie des uns et des autres, de Madame Léopold en premier lieu, mais aussi de mon père, parce que mon père a soulevé aussi pour moi un certain nombre de surprises et de doutes du fait qu'il ne nous ait pas raconté ces épisodes-là, notamment ceux de leur retrouvaille, il reste quand même quelque chose que je n'arrive pas véritablement à sonder, à comprendre, quelque chose qui m'échappe dans cet épisode qu'elle me raconte et dont je sens bien qu'elle ne me dit pas tout, du moment où elle entre en contact avec ma tante, accompagnée de Pierre Lussac, le moment où elle revient. Je comprends, je sens que là, il y a quelque chose, qu'il y a un secret. Voilà. Un secret qu'elle ne m'a pas livré et un secret qu'elle, du coup, ne me livrera jamais. Je sens bien qu'elle me cache quelque chose et que tout n'est pas juste là-dedans. Et vous savez, un livre ou ce genre de travail qui concerne encore les vivants, c'est comme une espèce de c'est comme une action chimique qui révèle ou fait revenir à la surface d'autres choses, et ça n'a pas manqué.
vraiment un livre où effectivement on va d'énigme en énigme. En fait, vous terminez le roman, enfin le récit plutôt, vous terminez le récit en novembre 2015,
oui.
Juste après les attentats.
Oui.
Et je voulais vous demander pourquoi.
Déjà parce que c'est vrai. Parce que c'est la date anniversaire de mon père et il y a ce petit moment aussi où j'y pense à ce moment-là. Et cette date anniversaire correspond au moment des attentats du Bataclan et des rues du 11e arrondissement. Bon, j'ai travaillé sur le longuement pendant des années. C'est quelque chose qui m'a pas, dont on ne sort pas indemne. Sur les Einsatzgruppen, c'est-à-dire cette première phase du génocide qui fait suite à l'invasion de l'URSS juin 1941, le plan Barbarossa par les nazis. Et vous savez que, voilà, entre le printemps 1941 et disons l'été 1942, les Allemands, avec ses commandos spéciaux, les Einsatzgruppen, vont massacrer tous les juifs d'Ukraine, des pays baltes. Des confins de l'Ukraine et de la Roumanie, de Biélorussie et un peu de la Russie centrale. Donc c'est 1 million de morts, en gros, on ne saura jamais vraiment les chiffres, mais enfin c'est pas moins, avec des assassinats de masse considérables. Tout le monde a entendu parler du Babi Yar, hein. 33 771 femmes, vieillards, hommes, enfants, tués en 2 jours dans le ravin de la grand-mère à Kiev. Des massacres comme ça, en réalité, il y en a eu tous les jours, peut-être pas de cette ampleur, mais beaucoup étaient de très très grande ampleur. Et l'image est saisissante, on mettait les juifs nus ou pas, ça dépendait des phases, il y a eu plusieurs phases, y compris dans cette période-là, mais directement dans la fosse, et puis on leur tirait dessus en marchant sur eux. L'endroit où les gens au Bataclan ont été assassinés s'appelle la fosse aussi. Les choses se sont passées d'une certaine manière. Enfin, voilà, il y avait un... Je sentais ces deux images en train de se percuter et cet endroit, c'est-à-dire tous les cafés qui ont été visés, le Bataclan, c'est l'endroit même où habitaient mes grands-parents. C'est l'endroit même où Madame Léopold vient chercher l'enfant, les enfants pour les faire passer en zone libre. C'est l'endroit même où moi-même j'ai grandi. Mon père n'a jamais quitté ce quartier des 11e et 12e arrondissements de Paris. C'était son fief, c'était un amoureux de Paris, mon père. Et il revenait très souvent sur les lieux où il avait habité enfant, rue de la Folie-Méricourt. Nous habite toute ma vie, mes parents et ma mère y habitent encore, habitent en face du Bataclan. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas mentionner aussi, pour diverses raisons, ce moment qui est réel, puisque ça a correspondu véritablement à la fin de l'écriture du livre, et en même temps, ce moment de bascule où... l'horreur qu'on voulait conjurer après la guerre, avec le plus jamais ça, d'une certaine manière, revenait nous hanter aujourd'hui, et où les Juifs, pour ce qu'ils sont, étaient encore visés et tués. Voilà.
Oui. Et puis c'est aussi une forme d'engagement de votre part dans vos différents ouvrages, et puis celui-là qui est peut-être un petit peu plus personnel finalement, parce que vous arrivez à écrire sur la relation que vous avez avec votre père, qui est pas très bavard.
Non, j'ai une relation compliquée avec lui. J'ai eu une enfance difficile. Ça a été un père sévère. Ça a été un père qui avait aussi une soif de revanche sur la vie, mais aussi sur son enfance. Et je crois que comme beaucoup de ces enfants cachés, des enfants qui ont perdu très tôt leurs parents, dont le traumatisme les a brûlés pendant toute leur vie, surtout la perte de la mère, je crois qu'il y avait aussi une revanche du point de vue de l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Il fallait qu'on en bave, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez beaucoup d'enfants qui ont été élevés par des anciens enfants cachés ou des enfants juifs qui ont perdu leurs parents dans ces conditions atroces. C'est des choses que j'ai comprises, bien sûr, par la suite. C'était quelqu'un, comme dans beaucoup de nos familles, qui avait une incapacité à communiquer ses sentiments, son affectivité, qui était un handicapé de ce point de vue-là, certainement. Les choses se sont améliorées avec l'âge et la vieillesse venues, certainement. Mais enfin, c'est la douleur de ces traumatismes aussi qui a fait que nos relations ont été très très difficiles jusqu'à l'adolescence. Elles se sont ensuite améliorées, bien heureusement, à l'âge adulte.
Oui, et vous avez dû compléter effectivement ces témoignages par de la recherche historique, par la recherche de témoins, par tout un travail qui est finalement un travail de mémoire au sens de travail. Effectivement, vous avez cherché à rassembler des documents, à essayer d'avoir une histoire la plus complète possible de ces événements, tout en voyant que finalement vous aviez encore des zones d'ombre.
Oui, et il en restera un certain nombre, même si je crois tout ou presque a été plus ou moins élucidé.
Bien, eh bien, voilà quelques pistes sur cet ouvrage. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire, beaucoup à dire sur la fragilité du témoignage, beaucoup à dire sur ce que sont les justes. Donc, je trouve que ce livre ouvre beaucoup de pistes de réflexion. Merci, Michael Prazan.
Merci à vous.
D'être venu ce soir nous parler de votre ouvrage « La passeuse » aux éditions Grasset. Un ouvrage très riche d'émotions et de réflexions profondes. La semaine prochaine, Manosiri recevra Jonathan Berg et sa traductrice Laurence Sandrovitch pour un roman israélien très actuel. Donne-moi encore 5 minutes aux éditions de l'Antilope, à ne pas rater. Merci encore et à bientôt.